Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ingeborg Kraus, qui est psychologue clinicienne d'Allemagne. Et bon, je vais le laisser se présenter et puis nous exposer les effets de la lesbophobie sur la santé mentale.
Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier au CEL de m'avoir invité et à la coordination lesbienne en France d'avoir mis tout ça en place. Chantal m'a bien présenté. Je suis d'Allemagne, je suis psychologue clinicienne. Mais j'ai fait mes études en France, à Strasbourg, c'est pour ça que je parle le français, mais je fais pas mal de fautes encore, alors excusez-moi. S'il y a des fautes aussi dans la présentation, faut me pardonner. voilà. Donc, comment je suis venue sur ce sujet-là? C'était d'abord une approche personnelle qui a fait que je voulais dire quelque chose là-dessus parce que j'étais moi-même, en tant que lesbienne, touchée par ça. Et ensuite, des phases dépressives, etc. Et ensuite, en tant que clinicienne, je me suis intéressée sur ce sujet et j'ai constaté qu'il y avait des gens et des groupes, des organisations sur le monde entier qui se sont déjà posés, qui ont fait des recherches et qui se sont intéressés sur ce sujet. Et aujourd'hui, j'aimerais, vous faire partager ces recherches. Donc, voici les chapitres que je vais présenter. Tout d'abord, l'historique. C'est toujours l'approche du point de vue psychologique, psychiatrique. Quels sont les stress spécifiques que subissent les lesbiennes, les risques psychiques que peuvent faire ces stress? Ensuite, quelle approche devraient prendre les gens qui travaillent avec les lesbiennes, pas seulement les psychologues, mais aussi les organisations ou les gens qui travaillent dans la santé mentale, etc. J'aimerais ensuite parler de la thérapie positive. Et en Allemagne, les lesbiennes qui ont fait ces dernières années un coming out qui était pour nous très important. L'historique dans la psychologie et la psychiatrie a une longue histoire de discrimination qui a débuté par les systèmes de classification. Donc vous avez deux systèmes de classification. Un système qui s'est imposé en Europe, ça s'appelle en anglais le ICD-10, donc International Classification of Diseases, et aux États-Unis le DSM. C'est quoi un système de classification? On a commencé en 1700, moitié du 18e siècle, les médecins ont dit il faut que nous sachions pourquoi de quoi les gens sont morts, de quoi les gens sont malades. C'est bien sûr très très important, ce système. Et ensuite, bien sûr, on a continué à classifier les maladies mentales. Là, ça devient plus compliqué. Et il y a une phrase comme ça que que une des motivations centrales des diagnostics psychiatriques consiste d'essayer de contrôler les gens qui font peur à la société. C'est bien sûr dans la psychiatrie, on classifie les symptômes. Donc c'est quoi une dépression? Il y a des symptômes. Repli sur soi, tristesse, etc. Mais en fait, lorsqu'on a commencé à dire que l'homosexualité est une maladie mentale, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est on juge, c'est la société qui a un symptôme. Ouais. C'est la société qui a peur. Je trouvais cette approche très très intéressante. La pathologisation de l'homosexualité était très très longue. Hein. Moi, j'étais moi-même étonnée parce que quand j'ai commencé mes études de psycho en 1989, j'étais encore malade mentale. oui. Alors, c'était pas l'occasion à l'université de faire mon coming out à cette époque. Hein. Ici en Europe, jusqu'en 91. Hein. Et aux États-Unis, jusqu'en 73, ça a duré 20 ans que les choses que les Américains ont abolies de venir en Europe. C'est dommage, parce que pas tout est mauvais ce que font les Américains. ces théories et cette pathologisation a fait des choses quand même incroyables, dont on parle presque plus, alors qu'il n'y a pas longtemps encore qu'on a fait ces choses-là. Donc, la psychiatrie, puisque les gens étaient malades, donc on voulait les rendre sains, quoi, enfin les guérir de l'homosexualité. Les psychiatres ont fait des traitements hormonels, donc médicamenteux. Ils ont essayé de les traiter avec des drogues. Mais il y a eu d'autres traitements aussi, donc des interventions chirurgicales sur les lesbiennes aussi. On leur a enlevé la clitoris. On a fait des interventions sur le cerveau. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est juste, ça s'est passé entre 1950 et donc... jusqu'à, je sais pas quand, jusqu'à ce qu'on ait enlevé cette diagnose officiellement. Donc pour s'en sauver, quoi, les femmes se sont mariées, quoi. Il y a eu des mariages arrangés, etc. La théorie analytique. Donc, ils n'ont pas pris le scalpel, mais ils ont pris un scalpel pour la santé, quoi. Ils ont dit que c'est une neurose, donc un trouble du développement psychosexuel dans l'enfance. Et moi, je peux vous assurer, moi, j'ai appris ces théories encore. Et ces théories sont tellement ancrées encore aujourd'hui dans le cerveau, quoi. Enfin, je les entends encore aujourd'hui, quoi. Donc pour les lesbiennes, ce serait un complexe de castration. Ils s'identifieraient avec un objet phallique. Et la faute, bien sûr, c'est toujours la mère qui est faute. Qui a fait ça. Elle est surprotectrice vis-à-vis de ses enfants. Et le but d'une analyse, c'est de dénouer ce conflit. Ouais, voilà. Alors, les gens, ils ont passé 10 ans sur le divan en pensant, oui, il y a eu un conflit dans mon enfance. Il y a quelque chose que avec mes parents, avec ma mère qui a mal tourné, quoi. Les théories comportementalistes n'étaient pas mieux, même pire. Ces théories sont basées sur... on pense que c'est un apprentissage déviant basé sur des fausses fantaisies masturbatoires. Bon, pour expliquer ça, c'est ils pensaient que si on pouvait le réapprendre autrement, si on leur donnait des images, d'autres images et des images positives, et si ces gens avec les images homosexuelles obtiennent des effets négatifs, donc des chocs électriques, ils pourraient s'en libérer. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi. C'était donc ces traitements par électrochoc. Le résultat, c'est que les gens étaient complètement traumatisés après. C'est qu'à chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un qui désirait, ils ont eu peur. Enfin, vraiment, ils ont des tremblements, etc. Le tournant était très important. Il a été mis en place aussi grâce à des organisations ou des associations qui recueillaient les psychologues LGBT. Ils ont fait pression sur ces groupes de travail les groupes de travail du DSM ou de l'ICD. Donc, c'est libre de classification. Au début des années 70, il y a 3 associations aux États-Unis qui se sont formées. Une section de l'APA, une société, Society for the Psychological Study of LGBT, c'était la plus importante. Ensuite, une association of gay and lesbian, des psychiatres gays et lesbiennes, et aussi une association des psychologues lesbiennes et gays, ça c'est juste aux États-Unis. Et grâce à eux, ils ont fait énormément de pression sur le groupe de travail qui constituait ces livres de classification. C'est grâce à eux que ça aussi, quoi, qu'ils ont enlevé ça dans les années 70. Et en Europe, aujourd'hui, il n'y a juste 3 associations de psychologues gays et lesbiennes, dont moi je fais partie de l'allemande. Il y en a une autre en Angleterre et une autre association aux Pays-Bas. Il n'y en a pas en France. Et eux aussi, grâce à eux aussi, mais pas seulement, ils ont fait pression sur ces groupes de travail. Ok. Donc, je peux dire quelque chose sur cette association que je représente aussi aujourd'hui. C'est le Verband von Lesben und Schwulen in der Psychologie. Ils forment les psychologues. Ils ont l'objet aussi de faire un groupe de pression sur la politique, de faire des recherches, etc. Le problème n'est pas fini avec les diagnostics. Vous pensez, oui, maintenant que l'homosexualité n'est plus pathologisée, c'est fini? Non, pas du tout. Il y a encore des diagnostics qui pathologisent aussi les lesbiennes. Donc, il y a je vais juste parler de l'ICD, la transsexualité en Allemagne ou en Europe est encore perçue comme un trouble psychique. La France, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, l'a enlevé en 2009. Mais officiellement, pour l'Europe, c'est encore un trouble psychique. Et seulement depuis mai 2013, depuis qu'il existe le DSM-5 aux États-Unis, donc là, la France était en avance, hein. ce n'est plus un trouble psychique. Aussi, le transvestisme est encore catégorisé comme un trouble psychique. Pour les lesbiennes, ce qui est intéressant, c'est les diagnostics F66. Ou, par exemple, c'est les problèmes psychologiques et comportementaux associés au développement sexuel et à l'orientation sexuelle. Vous n'allez peut-être pas comprendre ce que ça veut dire, je vais vous expliquer. S'il y a quelqu'un qui vient, et moi j'ai ça dans mon cabinet, des femmes lesbiennes qui viennent et disent, écoutez, je supporte pas, j'arrive pas à vivre en tant que lesbienne, essayez de changer quand c'est l'autre qui le veut. Bien sûr, ça ne peut pas être un but. Mais dans la psychiatrie, c'est encore vu comme une pathologie de ne pas pouvoir assumer son orientation sexuelle. Je vais vous donner un autre exemple pour mieux comprendre. S'il y a une femme qui est complètement qui soigne son mari qui est depuis 10 ans qui est malade d'une démence, ouais. Et après 10 ans, elle vient et elle dit j'en peux plus, je peux plus soigner mon mari, enlevez-moi. Il y aura aucun psychiatre ou aucun psychologue qui dira vous êtes malade. On comprendra que la gravité ou les problèmes qui viennent avec cette maladie ou, sont difficiles pour cette femme. Ouais. Et ce n'est pas elle qui est malade, mais c'est le problème qui fait. Là, vous comprenez. Mais ça, c'est encore un problème dans le diagnostic. Ouais. La même chose dans le développement psychosexuel, il y a aussi un diagnostic qui dit qu'un enfant qui se comporte d'une façon complètement différente du rôle du rôle de genre, quoi. Une fille qui ne veut pas du tout jouer avec les poupées Barbie ou qui veut juste faire des choses avec les garçons ou juste comme ça. Là, il y a un problème aussi parce qu'une fille comme ça peut aussi être pathologisée à cause. Ouais. Parce qu'elle se trouve en dehors de ce qu'on attend du genre. Voilà, alors il y a là aussi encore des choses à faire. Les problèmes ne se posent pas seulement dans les classifications psychiatriques, mais aussi dans les écoles. Il y a beaucoup d'écoles psychanalytiques qui refusent j'ai dit ça maintenant, les lesbiennes, les femmes bi ou les male to female, donc les trans, bien sûr les gays aussi, mais puisqu'on parle aujourd'hui des lesbiennes ou des femmes, je l'ai appelé comme ça. Moi-même, il y a 10 ans, quand j'ai voulu me spécialiser, il y a 2 écoles en Allemagne qui sont acceptées, c'est l'école comportementaliste et l'école analytique. Je me suis dit non, alors que je m'intéressais pour l'analyse. Et je me suis dit, ils ne vont pas m'accepter là-bas, et après je dois recommencer avec mon Oedipe et tout ça. Alors pour ça, j'ai décidé de faire les études, de devenir comportementaliste, ouais. Pour me protéger. Il existe dans le système de santé médicale beaucoup de préjugés sur les lesbiennes, les bi et les trans. Aussi bien les clientes, les patientes, mais aussi les psychologues. Donc, j'ai travaillé 9 ans dans des cliniques. Bon, on dit clinique en Allemagne, dans des hôpitaux psychiatriques. Et je n'ai souvent pas fait mon coming out, ou si je l'ai fait, c'était juste entre quelques amis. Parce que je me suis dit, ils vont peut-être penser que je ne vais pas pouvoir traiter, des problèmes de couple hétéro ou des trucs comme ça. Et il y a un problème aussi, c'est les gens qui disent oui, moi j'ai pas de problème, j'accepte les homosexuels, ils ont les mêmes droits, vous êtes pareil. Ouais. Donc s'il y a pas de discrimination, d'un autre côté, les psychologues ou les gens qui travaillent dans le système de santé, ils ne sont pas conscients des problèmes spécifiques que abordent les lesbiennes. Voilà. Donc ces problèmes spécifiques, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elles peuvent rencontrer, les lesbiennes. Donc là, j'ai repris cette image-là, parce que je la trouvais pas mal. En fait, il faut rien faire et rien dire. Il faut juste être lesbienne. Et ça veut dire pour ces hommes-là, mais les femmes aussi qui font partie de ce système, une lesbienne dérange. Parce que il faut même pas qu'elle fasse pipe, hein, rien. Il faut qu'elle ne dise rien. Elle met ces valeurs-là en question. Oui. Et c'est souvent inconscient. Hein. Ils se sentent attaqués. Et on parle d'un ordre hétérosexiste. Alors là, j'ai repris une phrase de Gisela Wolf. Donc, le simple fait d'être lesbienne, cela remet en cause la société patriarcale avec ses définitions des genres. Cela est souvent perçu comme une attaque envers les structures de pouvoir pour une femme hétéro, un danger de perdre leur prise d'influence dans ce système. Et c'est vrai, moi j'ai été discriminée encore plus souvent par les femmes que par les hommes, bien sûr, par les hommes aussi, mais souvent aussi par les femmes qui avaient peur aussi de garder un contact avec moi. Je me rappelle, j'avais une amie, une collègue psychologue aussi, et on s'est donné rendez-vous, elle m'a invité à manger chez elle, chez un copain, on travaillait ensemble. Après 6 mois, je me suis dit, allez, je vais lui dire que je suis lesbienne. Et elle est sortie en courant. Moi, je me suis dit, mais elle a eu peur. Oui, c'était... D'abord, j'ai pas rigolé. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, mais maintenant, je peux en rigoler, oui. Mais elle est vraiment sortie de moi. Elle est revenue après une demi-heure et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et bien, elle n'a jamais rencontré, elle ne connaît pas ça. Ouais, bon. Enfin, voilà. Je veux juste présenter ce bouquin-là. C'est Gisela Wolf, elle fait partie du comité, de cette association gay et lesbienne en Allemagne. Elle a fait une recherche très précise de la santé mentale juste des lesbiennes. Lesbiennes, femmes bisexuelles et male to female. Ouais. Les trans qui se sentent. Et aucune prof en Allemagne voulait l'accompagner. Même les femmes, parce qu'elles ne voulaient pas s'identifier avec un travail comme ça. Elle a dû aller en Suisse, donc c'est ce prof-là qui a fait des recherches très importantes aussi sur la santé mentale des LGBT. Et lui, il a suivi son doctorat. C'est quand même incroyable. Elle a publié en 2004, donc c'est pas tellement, il n'y a pas tellement longtemps. Hein. Pardon ? Je pense pas. Donc, les effets de l'hétérosexisme. Je prends une phrase de Rauchfleisch, donc ce prof en Suisse, là, qui a fait des recherches très, très bien. Il dit que ce serait un chapitre très volumineux et sombre si je décrirais d'une façon seulement approximative la masse de discrimination dont sont exposées actuellement les personnes LGBT dans la vie sociale. Donc c'est vrai, je veux dire, je l'ai déjà dit la dernière fois dans mon exposé, je pourrais rester là maintenant 3 heures et 3 nuits et juste discuter sur la lesbophobie. Il y a d'autres conférences, j'ai vu, qui vont en discuter. Mais c'est pas le but de mon travail là, mais c'est énorme et souvent les lesbiennes ne se rendent même plus compte, elles prennent ça comme quelque chose de normal. Et moi je parle de micro-traumatisme que nous vivons au quotidien. Donc, mais je veux quand même dire où on en est avec la lesbophobie. Il y a une étude en 95 que de femmes, en fait, une des je pense que c'est la première étude sur la lesbophobie que Reinberg et Rosbach ont fait. Je ne vais pas présenter leur étude, mais je vais présenter leurs résultats. Elles parlent d'un système de discrimination qui a l'objectif de ne pas pouvoir s'imaginer une vie lesbienne comme un projet de vie positif. Le fait que chaque domaine de vie est touché, aucun espace libre est accordé et toléré, la discrimination est perçue comme une chose naturelle et par conséquence n'est pas remise en question. Je trouvais ça très triste, mais c'est comme ça. Mais vous allez me dire, c'est en 95, on est en 2013, les choses ont changé. Alors, les enquêtes après, en 99, il y a une enquête de Stein-Hilbers faite sur 757 lesbiennes en Allemagne, donc pas seulement à Berlin, parce que Berlin, c'est différent. Et là encore, 98% ont subi de multiples discriminations. Donc j'ai écrit ça en allemand parce que je ne connaissais pas le terme français. Et ont été rejetées. Un tiers ont subi des insultes. 44% ont subi des abus sexuels. Et un quart ont subi des violences physiques. Là aussi, vous allez me dire, ça c'est en 99, les choses ont changé. En 2008, donc l'enquête de SOS Homophobie, là, ils ont trouvé que 63% y ont répondu à l'enquête. Donc, c'est pas les gens qui ont téléphoné parce que c'était une autre enquête. Hein. Et ont répondu à l'enquête, déclarent de la lesbophobie dans au moins un des 11 contextes, parce que ils demandent à chaque fois 11 contextes. Famille, travail, voisinage, etc. Donc, ça c'est quand même. Et c'est toujours. Leur enquête est toujours faite les derniers 2 ans. Donc, pas la vie entière, mais est-ce que vous avez été victime de lesbophobie les derniers 2 ans? Donc, moi je trouve ça élevé aussi. Et même 45% ont été insultés ou agressés. Donc, c'était pas seulement des choses par derrière, mais direct aussi. Donc là aussi, vous allez me dire, oui, bon, c'est 2008, maintenant les choses ont changé. Les dernières enquêtes, c'est 2013. Donc SOS Homophobie, les appels qu'eux, ils ont reçus, moi je trouvais ça très choquant aussi que 11% des manifestations lesbophobes ont été des agressions physiques. Moi je trouve ça quand même très très choquant. Et 52% ont été insultés. Ensuite, il y a une enquête très, très récente, je pense qu'elle est sortie justement il y a un mois, de l'Union européenne. Et cette enquête, en général, elle dit que les lesbiennes, les femmes bi et les trans sont plus fortement victimes de discrimination que les gays. Je l'ai ici, cette enquête. Donc, ça aussi, ça m'a bouleversée. Et à la question, est-ce que vous vous êtes senti agressé ou personnellement discriminé les 12 derniers mois à cause de votre orientation sexuelle? Donc, la moyenne LGBT dans toute l'Europe était de 47. Et la moyenne des lesbiennes était de 55 au total. La France était de 41% et l'Allemagne de 46%. Donc là, l'Allemagne bat la France, mais d'une façon négative. Et la discrimination au travail, en moyenne, la moyenne dans toute l'Europe LGBT était de 32%. Et les femmes, juste les femmes au total, 39%. En France, 31% et en Allemagne, 32%. Donc là aussi, l'Allemagne bat la France dans un sens négatif. Je voulais dire encore quelques mots sur ce silence vis-à-vis de cette lesbophobie. Donc là, il est devenu complètement normal qu'il y a des groupes de jeunes qui sortent comme ça et disent « Allez, on va casser un PD aujourd'hui », aussi dans les écoles. Il y a eu une étude de l'ILGA en 1997 en Angleterre qui a montré que 80% des instituteurs ou institutrices ont été témoins d'agressions anti-lesbiennes et anti-gays à l'école, mais presque personne n'est intervenu en disant qu'il ou elle percevait ces attitudes homophobes comme une réaction normale dans le développement des jeunes. Et donc, c'était en 97, mais ce qui est cette étude de 2013, l'Union européenne met la même chose en valeur. Enfin, il y a 91% dans l'école ont perçu de la discrimination homophobe. Donc, c'est quelque chose de quotidien. Là, je voulais quand même dire aussi quelque chose de spécifique et qui me semble important. Donc, il y a des stress qui viennent de l'extérieur, du monde patriarcal et tout ça. Et ensuite, on cherche un endroit où on est entre femmes. Et souvent, cet endroit peut devenir un endroit qui est très stressant. Alors tout d'abord, il y a très très peu d'endroits pour lesbiennes. Quand vous allez à Berlin, tout le monde parle de Berlin et voilà, c'est la grande capitale LGBT, mais il y a juste un bar pour femmes. C'est vrai, bon, il y a d'autres bars, mais qui ont juste ouvert peut-être une fois par semaine ou une boîte qui fait... Moi, j'étais vraiment étonnée. En 2012, je me suis dit, allez, je vais aller dans la capitale de l'homosexualité. J'ai passé vraiment 2 semaines à Berlin et il y a des quartiers gays, mais il n'y a pas un seul bar pour lesbiennes. Donc ça pose un endroit, un problème, parce que souvent il faut faire des heures pour rencontrer des femmes. Et ensuite, on rencontre que c'est une vie, on rencontre très vite les mêmes femmes, donc on n'a pas vraiment le choix, quoi. Quand on est gay, quand on se dispute là avec des gens, on se dit « allez hop, je vais là-bas ». Là, non, on est. C'est un groupe qui est très très important pour les femmes et qui donne aussi un espace de protection, mais d'un autre côté, ça développe des dépendances extrêmes. Ouais. Que si on perd cet espace, on est doublement seul. Ensuite, à l'intérieur de ces espaces qui devraient protéger les lesbiennes, moi j'ai rencontré beaucoup de discrimination. Par exemple, les lesbiennes d'un certain âge ne sont pas acceptées, ou les bi, on entend des trucs comme ouais, t'es bi, t'es pas vraiment lesbienne, ou les trans, ou les lesbiennes avec un handicap, etc. Et on observe aussi un manque de solidarité entre femmes et souvent aussi des conflits avec les gays qui ont du mal à accepter la problématique spécifique des lesbiennes. Par exemple, à Munich, il y a quelques années, les lesbiennes... nous, on n'a pas des gay pride, mais on appelle ça des CSD, Christopher Street Day. parce que aux États-Unis, dans la rue qui s'appelle Christopher Street, on avait tué il y a une vingtaine ou trentaine d'années un gay. Et à Munich, les lesbiennes ont dit oui, mais pour montrer une fois la visibilité de la lesbophobie, on devrait appeler ça la Christina Street. Et, bien sûr, ils ont refusé. C'est dommage parce que la lesbophobie est quelque chose de spécifique. Ou même monument des déportés nazis, il y a eu des conflits sans fin. Les gays ont dit non, c'était juste nous qui étions victimes du paragraphe 175. Vous n'étiez pas touchés par ça. C'est faux. 10 000 lesbiennes ont été déportées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'était un combat très... Il a pris pas mal de gens, beaucoup d'énergie. Maintenant, justement, depuis l'année dernière, ils ont accepté de montrer aussi des images de femmes. Donc, les risques. Il faut dire, toutes ces études que je vais montrer sont biaisées. Parce qu'il est difficile de faire des études à... Par exemple, si vous faites une étude par Internet... Donc, vous allez seulement trouver des gens qui ont déjà des ressources. Donc, c'est déjà des gens qui sont, dans un réseau lesbien ou qui peuvent manipuler l'Internet et tout ça. Et tout le reste, donc, les lesbiennes qui peuvent être handicapées ou quelque chose comme ça, ou qui peuvent pas... s'acheter un ordinateur, elles ne sont pas dans ces études-là. Et ensuite, il y a beaucoup de femmes qui vivent une vie lesbienne, mais qui ne se sentent pas, qui ne s'identifient pas comme lesbiennes. On dit 10% des femmes sont lesbiennes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus. Hein, c'est... Il y a beaucoup plus de femmes qui vivent ça. Donc, toutes ces femmes-là ne sont pas non plus dans ces études, n'ont pas participé. Là, je vous présente une étude faite par cette organisation des Pays-Bas sur 7076 participants. Et participantes, mais pas seulement avec les lesbiennes, mais du monde LGBT ou LGB. Ouais. Donc sur les dépressions. Donc la probabilité d'obtenir une dépression sur 12 mois chez les hétéros était de 3,9% et LGBT ça a augmenté trois fois plus. La probabilité pour toute la vie c'était 10,9% et les LGB 29,3%. Moi je dis ça pour si on faisait une étude juste sur les lesbiennes, ça serait beaucoup beaucoup plus élevé parce que déjà juste les femmes hétéros ou tout ensemble ont une probabilité de 25% de développer une dépression. Donc, mais je voulais vous montrer ça juste pour montrer qu'il y avait une différence trois fois plus élevée. Et aussi que ce sont surtout les jeunes, durant leur processus du coming out, qui développent des dépressions. Les symptômes, là je voulais juste dire encore quelque chose sur les symptômes parce que les gens qui ont une dépression ne le savent souvent pas eux-mêmes. C'est un amour propre faible ou brisé, un peu d'assurance, un sentiment de dévalorisation, donc c'est dit je ne vaux rien et tout ça. Un repli sur soi, des idées noires, une grande tristesse. sentiment de désespoir, fatigue aussi, donc la dépression, quelque chose qui est ressenti par le corps. La concentration est aussi touchée. Et le sommeil peut être perturbé. Donc cette même organisation a regardé aussi l'agoraphobie ou les troubles obsessionnels. Les troubles obsessionnels compulsifs, là aussi il y a une augmentation tout à fait impressionnante. La suicidalité, c'est un chapitre qui est très très important et il y a une recherche qui a été faite par Pleudel, un Autrichien. Donc ce bouquin, il a juste fait une recherche sur la suicidalité et l'orientation sexuelle. Je ne vais pas vous présenter tout ce livre, mais bien sûr, là aussi, c'est difficile comment on fait ces recherches, parce que quand quelqu'un se suicide, on ne peut pas lui demander « Est-ce que tu t'es suicidé parce que tu es homosexuel ?» Quand même, ils ont quand même trouvé, par des méthodes très compliquées, quoi, que, enfin, il y a plusieurs recherches qui ont été faites, et à chaque fois, il y avait une augmentation frappante. Donc, une fois là, en 89, Gibson a fait une recherche et il a trouvé que deux à trois fois plus élevé, quoi, les risques de suicide. Ensuite, en 94, Stark a fait une étude et là aussi, un tiers des hommes homosexuels en Allemagne de l'Est ont déclaré déjà avoir pensé une fois de se suicider à cause des violences homophobes. Ensuite, l'étude Ramafedi en 98 a montré que la tentative de suicide était 7 fois plus élevée chez les LGB. En général, quand on regarde la suicidalité en dehors du contexte homosexuel, les femmes ont tendance, font beaucoup plus de tentatives de suicide que les hommes, mais les hommes se tuent plus. Bon, vous allez me demander comment ça se fait. Donc il y a plus d'hommes qui se tuent, mais il y a plus de femmes qui font des tentatives de suicide. C'est parce que aussi les femmes veulent être rester belles, quoi, lorsqu'elles sont mortes. Et les hommes, non, mais c'est aussi, hein, pas seulement ça. Et les hommes, quand ils font une tentative de suicide, ou alors ils se jettent sous le train, alors là, il n'y a plus de chance de survivre, ou alors ils sautent du 20e étage, ou alors ils font des choses comme ça. Et les femmes prennent des médicaments, et souvent, on les trouve à temps. Mais ça ne veut pas dire que elles sont à bout. Hein. C'est autant à bout que les hommes, sauf que la façon dont les démarches pour se suicider, heureusement, sont différentes. Là encore, une étude importante, je trouve, et on n'en parle pas assez, l'alcoolisme. Qui est beaucoup plus là, et là on avait fait des études spécifiquement avec les lesbiennes et il y avait deux études, le risque est 4 fois plus élevé. Là c'était une étude de Maria Weiss et une autre étude de Bloomfield aux États-Unis, que 23-35% de lesbiennes ont un risque d'addiction, d'abus. Donc plus élevé. Je vous ai dit que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais j'aimerais quand même parler d'autres risques. Vous avez vu dans ces études que j'ai présentées que les violences physiques sont encore très répandues et qui sont très choquantes. Donc les risques de développer des stress post-traumatiques sont très élevés pour ça aussi. Aussi donc des crises de nerfs où les gens essayent de de tenir une image vers l'extérieur et à un moment donné, ça va plus, quoi. Donc, c'est clair, des phobies sociales, la crise de panique, l'échec scolaire, bien sûr, les maladies psychosomatiques par le fait de réprimer tout le temps ses sentiments et ne pas pouvoir en parler dans le quotidien. Donc, ces sentiments réprimés se manifestent par le corps. Donc, des troubles du comportement alimentaire. Et il faut dire aussi des conflits, des crises de relations, parce que, oui, si les gens... si un couple hétérosexuel a des conflits, c'est plus facile d'en parler qu'un couple lesbienne. Alors, sachant tout ça, débutant aux États-Unis, ces associations de psychiatres, et de psychologues gays et lesbiennes, ils ont développé des directives. Moi, je dis, bon, c'est pas seulement des directives pour psychologues, mais pour tous les gens qui travaillent avec des lesbiennes. Ça ne doit pas seulement être dans les systèmes de santé mentale. C'est important de savoir ces choses-là. Alors, parce que quand on demande à un médecin ou une infirmière ou un psychologue s'il se sentait capable de travailler avec une lesbienne, ils se disent bien sûr, pas de problème. Et ils mettent pas ça en question, qu'il faut un savoir quand même spécifique. Et voilà, ces directives de cette association, donc l'APA, American Psychiatric Association, de 2011. Il y en a 16, mais je ne vais pas tous les mentionner. J'ai juste en mentionné quelques-unes. Il faut que les gens comprennent les stigmatisations et les discriminations des LGB, que ça peut avoir un risque pour la santé mentale. Presque toujours, j'ai rencontré des gens, des psychologues, des psychiatres, qui avaient aucune idée là-dessus ou n'ont pas compris ce que ça veut dire. Les psychologues comprennent les difficultés que doivent surmonter les LGB au quotidien. C'est un stress incroyable de à chaque fois se demander est-ce que maintenant je dis que je suis lesbienne ou pas, est-ce que quand je réserve l'hôtel je dis comme ça ou comme ça. Les psychologues comprennent les risques que confrontent les jeunes LGB, donc les risques surtout dans le processus du coming out, donc ce que j'ai dit sur la suicidalité et les dépressions aussi, enfin tous les autres risques aussi, mais surtout les jeunes sont confrontés à ça. Les psychologues ont une connaissance fondée de la problématique des LGB âgés et les conflits transgénérationnels à l'intérieur du conflit. Donc ça, c'est surtout aussi pour les gays, mais moi, j'ai parlé des conflits à l'intérieur, enfin des problématiques qu'on peut trouver à l'intérieur des associations lesbiennes. Les psychologues élargissent leurs connaissances sur l'homosexualité en poursuivant des formations spéciales, des supervisions. Et les psychologues connaissent les structures existantes pour LGB. Donc ça, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas dans une thérapie de seulement écouter et tout ça, mais de donner aux gens quelque chose à la main, pour qu'ils puissent mieux s'orienter dans la vie. Donc, des choses très simples, où est-ce qu'elles peuvent rencontrer un gynécologue ou une gynécologue qui est ouverte à ça? Si à chaque fois il faut faire ce même cheminement, ou est-ce qu'on peut rencontrer un club de sport ouvert aux lesbiennes ou un groupe, des trucs comme ça. Donc, c'est à eux de s'informer et c'est à eux d'ensuite donner ce matériel aux clients et clientes. Donc, pour les gens qui travaillent dans ces milieux, qui travaillent avec des personnes LGB ou lesbiennes, il faut comprendre ce que c'est l'homophobie intériorisée. Nous en sommes tous, moi encore aujourd'hui, hein, j'ai des aspects d'homophobie intériorisée. Quand vous vivez dans un monde qui dit tout le temps que c'est mauvais, donc automatiquement on commence à penser comme ça aussi. Mais c'est pas moi qui est malade, hein, c'est pas faut pas me donner une diagnose comme ça, le F66. Mais quand on travaille avec ces gens, il faut bien différencier, il faut bien comprendre, hein, que c'est un phénomène inconscient et souvent, voyez, c'est une stratégie pour se protéger, protéger des blessures. Et on peut développer des dépressions, quoi. Ce que les gens doivent aussi savoir en travaillant avec les lesbiennes, c'est de comprendre le processus de coming out. Donc, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, quand je travaillais encore dans une clinique, il y a une lesbienne qui est venue. Donc, sa psychiatre lui a dit, écoute, maintenant que tu es 6 semaines dans une clinique, tu vas faire ton outing partout. Oui, pour assumer, tu vois. Alors, elle est venue chez moi, elle ne savait pas que j'étais lesbienne aussi. Je l'observais, alors elle faisait partout son outing. Alors, je lui ai dit, bon, c'est une possibilité de le faire, mais comment est-ce que vous vous sentez en faisant votre outing partout? Ben, pas bien. Pas toujours bien. Alors, pourquoi est-ce que quand on veut forcer les gens de faire leur coming out partout? Bon, je trouve ça bizarre. Alors, je lui ai dit, écoute, tu n'es pas obligé de parler partout de ces choses-là. Enfin, tu ne dois pas dire partout que tu es lesbienne. Tu peux, mais vaut mieux regarder si sur ton sentiment, est-ce que tu as le sentiment que là tu te sens en sécurité, là ça va être bien, là tu es protégé ou pas. Tu as le droit. Et si tu ne le dis pas, tu ne mens pas. Ça, c'est important aussi de dire ça, parce qu'ils culpabilisent, ils pensent qu'ils mentent. Ouais, non, on se protège, c'est différent. Mais tu peux le dire, mais tu ne dois pas le dire, c'est une différence. Alors le coming out, c'est un processus, c'est pour ça que j'ai dit il y a 3 situations. Avant, j'avais dit 3 phases. Alors, si je parlerais en termes de phases, je dirais, voilà, maintenant, on se cache et après, on ne se cache pas. Non. Il y a 3 situations ou alors, il y a des situations où je me sens très bien, comme aujourd'hui. Alors, pourquoi je le cacherais? Mais il y a d'autres situations où, je ne sais pas, peut-être que si demain, je vais faire des vacances en Algérie, peut-être que je ne vais pas en parler aussi ouvertement. Enfin, je ne sais pas, oui. Et ça, il faut le respecter. Il faut enlever cette culpabilisation des gens. Tu dois. Non. Voilà. Donc là, j'ai encore dit, parce que faire un coming out, ça veut dire aussi, ça, bien sûr, ça peut être bien, quoi. On peut développer, on peut parler de sa compagne et tout ça, on peut vivre ouvertement et tout ça, mais ça peut aussi être un risque. Donc, il faut savoir ça, quand on travaille avec les lesbiennes. Qui a ce cheminement. Alors on peut vivre ouvertement, mais on peut ensuite avoir des effets négatifs, on peut être discriminé ou obtenir des violences ou pas, ou alors on peut décider de le cacher, mais ça a aussi des effets négatifs. On m'a demandé une fois, mais c'est quoi la bonne façon de manipuler le coming out? Quand est-ce que c'est bien? Moi, j'en sais rien. Je peux pas le dire. C'est à voir toujours individuellement. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une formation avec le titre Est-ce que les psychologues devraient faire un coming out avec leurs patients ou pas? Et ce psychologue qui a mené cette conférence a dit oui, parce que c'est une chance, parce que dans cette situation, on peut aussi enlever les préjugés des gens, etc. Moi, je vous dis, quelquefois, je dis à mes clients ou clientes que je suis lesbienne, mais la plupart du temps, je le dis pas. Donc, avec lesbienne, c'est sûr, je le dis. Mais avec mes clients ou clientes hétérosexuelles, la plupart du temps, je le dis pas. C'est quelque chose, c'est mon sentiment. Je me sens mieux comme ça, et puis voilà. Je voulais dire quelque chose sur la thérapie positive, que pour moi me semble très très important. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec quelqu'un, une sortie là sur l'île de Frioul, qui fait une thérapie aussi, puis j'entendais, c'était la thérapie classique encore. On parle des problèmes. Oui. La thérapie positive a une autre approche. On parle des ressources. C'est une approche complètement différente. On perçoit la personne pas comme... dans un système bidimensionnel... Ou alors les gens sont malades ou alors ils sont sains. Mais on regarde les choses d'une façon, qu'est-ce qu'ils font pour entretenir leur santé? C'est complètement différent. Parce que, quelque part, nous subissons tous et tout le temps des stress, hein. Mais si nous ne regardons pas ce que nous faisons pour notre santé, si nous ne nous engageons pas pour nous-mêmes, pour entretenir notre santé, même si vous enlevez maintenant toutes les discriminations ou les choses homophobes dans ce monde, vous pouvez assez rapidement devenir malade. Non, parce que vous ne faites pas assez pour votre santé mentale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez des gens avec qui vous pouvez parler? D'ailleurs, cette thérapie postule que les psychologues, que les gens n'ont pas besoin de psychologues. Moi, je suis de cette même avis. Si les gens travaillent effectivement sur leur santé, les psychologues sont complètement dispensables. Et quand j'étais encore dans la clinique, je travaillais, j'avais des groupes comme ça, je disais « Bonjour, je vais vous accompagner maintenant 4 à 6 semaines, mais vous n'avez pas du tout besoin de moi. » Parce que si vous avez des problèmes, est-ce que vous avez des gens avec qui vous pouvez échanger vos problèmes ? Bon, souvent, j'entends « Non, pas vraiment. » discuter avec un ami ou une amie des choses qui te tracassent, ça a des effets thérapeutiques similaires. Faire du sport, prendre soin de soi, s'occuper de ses loisirs, faire des choses qui font bien. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes. J'ai dit en dessous, la thérapie positive ou la chance d'être lesbienne. Je dis que c'est une chance parce qu'avec ces difficultés que vous rencontrez, vous développez aussi une force incroyable. Et je voulais montrer un peu ces forces, donc ces compétences que les lesbiennes peuvent développer. Alors d'abord, un courage. Et je trouve ça très important, par exemple... le travail que fait Eve Pascal et Marie-Jo Bonnet sur les femmes, les lesbiennes courageuses durant la Deuxième Guerre mondiale, les résistantes. Parce que je pense que c'est pas un hasard que ces femmes extraordinairement courageuses étaient des lesbiennes. Parce que quand on vit dans une société qui discrimine, on développe une force comme ça. Moi-même, quand je regarde ma vie, à un moment donné, je ne supportais plus dans les années 90, enfin 95, la non-intervention de l'Europe dans la guerre des Balkans. Alors j'ai pris mes affaires et je suis allée en bas. Je n'avais même pas de job. Je me suis dit non. Je vais faire quelque chose. Donc, c'était très courageux. Et c'est quelque chose que lesbiennes devraient savoir aussi. Il y a un courage incroyable qui est en vous. Une force aussi. Oui, c'est cette force de vouloir revendiquer les mêmes droits. Donc, on est tout le temps dans une situation comme ça où on est discriminé et ça développe des forces de revendiquer les mêmes choses. Je trouve ça d'ailleurs incroyable ce qui s'est passé en France. D'ailleurs, je vous en remercie avec toutes ces manifestations pour le mariage homo. Je me suis dit, c'est une force incroyable qui s'est mise là en place. Une conscience prononcée des structures de domination. Souvent, quand je parle avec des femmes hétéros, je me dis, elles ne réfléchissent souvent pas beaucoup sur ces choses-là. Donc, dorénavant, une femme lesbienne, elle doit se poser des questions sur ces choses-là. Donc, une sensibilité particulière pour les injustices sociales et pour les minorités opprimées. Donc, quand on est lesbienne, je dirais majoritairement, on est gauche. Alors, on s'engage aussi pour d'autres injustices. Il y a d'autres compétences aussi qu'on développe en tant que lesbienne. la compétence de s'adapter à des situations difficiles, une vigilance élaborée, aussi une flexibilité, aussi un sens aventurier, parce que quand j'étais à Berlin, la plupart des lesbiennes, quand je discutais avec une, elles disaient « Ah, je viens d'un village de la forêt noire et tout ça, c'est « Allez, on part ». Peut-être que je l'ai mal traduit, c'est peut-être pas le mot, mais une avidité pour réussir, un combat, un esprit combatif. Et c'est vrai, chez moi, j'ai développé ça. Je me suis dit, je veux sortir de là. J'ai pris des chemins très risquants, mais... Et aujourd'hui, quand je regarde sur mon orientation sexuelle, je suis contente. Je veux plus regarder là-dessus dans un sens négatif ou qu'il me faut quelque chose. Mais ça m'a donné, c'était une chance pour moi de développer tout ça. Voilà, alors les choses ont changé. Et en Allemagne, ces dernières années, il y a pas mal de femmes qui ont eu le courage de faire un coming out. Donc, quand vous regardez ces deux femmes en haut à gauche, c'est Anne-Ville et sa compagne. Et c'est elle qui mène une émission de télévision politique la plus importante en Allemagne. Bon, je trouve ça super. Ouais. Elle a fait son coming out en 2004. Pour moi, c'était vraiment aussi une libération intérieure. Les deux plus jeunes à droite, elle aussi, c'était une speakerine de télévision en Allemagne. Plus de ça, je pense qu'elle est turque ou iranienne, je ne sais pas. Et en bas, c'est Suzanne Hébert. Et là, sur elle, je veux dire quelque chose. Maintenant, depuis 2 ans, elle habite à Karlsruhe. Et elle est... en Allemagne, nous avons un tribunal constitutionnel qui a beaucoup plus de pouvoir qu'en France, qui se situe au-dessus de la politique, donc au-dessus du Parlement. Et quand il est constitué de 8 juges, dont... Elle est lesbienne. Et pendant que vous, en France, vous étiez dans la rue pour le mariage homo, nous, on a fait une petite révolution en silence en Allemagne. Donc, ce tribunal constitutionnel a décidé 2 choses sur l'égalité du système d'impôts. Chez les homosexuels, donc on n'est pas défavorisé, on n'est plus défavorisé en ce qui se concerne ça. Et pour l'adoption, si quelqu'un a un enfant et amène cet enfant dans un couple homosexuel, le partenaire ou la partenaire a le droit d'adopter cet enfant. Ce qui reste encore à faire, et ça, ça a été décidé, et maintenant, il y a une loi qui est passée au Parlement il y a seulement 2 ou 3 semaines. Il reste encore, on n'a toujours pas le mariage homo, mais presque. Donc on remercie aussi à la France qui a donné cette... poussé comme ça, et chez nous ça a fait des changements. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et
merci Ingeborg pour ton exposé. Je pense que ça va susciter des questions.
Moi, je veux bien commencer. J'ai pas très bien compris ton exposé parce que tu fais un état quand même édifiant des risques psychiques du lesbianisme. Une liste quand même assez édifiante. En même temps, tu présentes aussi le coming out comme avec un aspect risque important, mais donc libération au terme de social et communication, mais aussi tu parles des risques liés aux discriminations, mais tu parles pas des stratégies de résistance aussi. Et puis par rapport à la question des processus psychiques qui sont en œuvre, comment on peut aujourd'hui distinguer ce qui est de la condition des femmes, la condition des femmes, son lesbianisme, en fonction aussi de si on est militante ou pas, parce que je pense que être politisée et être engagée de façon militante permet d'avoir une analyse et des stratégies de résistance aussi qui sont plus fortes que si on est isolé. Et ta deuxième partie là sur la thérapie positive, et puis après on a besoin de personnes, alors que bon, on voit y a quand même que ça soit la dépression, que ça soit l'alcoolisme, c'est des maladies quand même qui sont extrêmement difficiles à régler. Donc pour moi, je pensais qu'on allait parler plus des situations, parce que tu dis aussi que on subit des micro-traumatismes quotidiens, ce qui me semble énorme. Donc, je veux dire, c'est quoi ces micro-traumatismes ? C'est-à-dire que tu fais un peu quand même une présentation extrêmement catastrophiste au début, et puis à la fin, tu dis, mais il n'y a pas de problème, de toute façon, vous allez vous en sortir toute seule, et être lesbienne, ça suffit, c'est beau, c'est magnifique. Donc, moi, j'y comprends rien.
Je réponds peut-être tout de suite. J'ai fait aussi une formation supplémentaire en traumatisme psychique. Et j'avais des femmes chez moi en consultation quand elles m'ont pas lesbienne hein, ou aussi à n'importe. Quand elles m'ont raconté ce qu'elles ont vécu, je veux dire, ça dépassait presque ce que je pouvais m'imaginer. Mais la thérapie, 90% de ce qu'on fait dans les thérapies de traumatisme est la stabilisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ces femmes apprennent quand elles ne vont pas bien, de faire des choses pour que ça aille mieux. De ne pas rester dans une situation de victime, de ne pas dire je ne peux pas, mais de venir dans la possibilité de dire je peux. De dire ce que j'ai vécu était très très difficile, c'était traumatisant, c'était incroyable, mais c'est fini. Et aujourd'hui, je vis une nouvelle vie. C'est tout ce qu'on essaye de faire dans des traumatismes, avec des femmes traumatisées, mais des traumatismes incroyables, hein. Et donc c'est ça aussi une thérapie positive de voir, de dire à ces femmes mais regarde les ressources que tu as, ouais. Et quand ces choses se sont passées, qu'est-ce que tu as fait pour que ça t'aille un peu mieux? Tu as dansé. Donc si tu danses, ça va un peu mieux. Et tu danses aujourd'hui? Non. Et est-ce que tu pourrais recommencer à danser? Oui. Donc c'est ça. C'est ça que je veux. Donc j'ai dit des micro-traumatismes. Mais j'ai dit aussi, j'ai montré que à travers ces enquêtes sur la lesbophobie, quoique il y a beaucoup de choses qui sont touchées. La famille... les micro-traumatismes sont partout. Je vais rentrer avec ma compagne à l'hôtel. peut-être si on va me demander est-ce que vous êtes lesbienne ou pas, ou, je veux dire, c'est, on est tout le temps confronté à, ben, il faut toujours faire un choix, est-ce que je cache mon identité ou pas, est-ce que ça va avoir des conséquences négatives sur moi ou pas.
Donc ça veut dire qu'on est psychiquement en état de fragilité permanente. Ça veut dire qu'on est psychiquement traumatisé quotidiennement. Attends, je trouve ça très grave de dire ça.
Moi, je trouve ça pas grave. Et c'est ça aussi qui n'est souvent pas vu. Que nous vivons quotidiennement, nous sommes dans des situations qui sont pas faciles. Oui. Et je parle pas de traumatisme parce qu'il y a des définitions très concrètes pour traumatisme. Et je parle de micro-traumatisme.
Oui, je voulais juste déjà te dire bravo et merci. Chaque fois que je t'écoute, j'apprends des choses. Et là, d'un coup, avec des trucs que tu as dit en tant que responsable associative, j'ai presque peur. Entre guillemets, parce que c'est vrai, tu parlais, on n'a pas un titre pour être responsable d'une association. On n'a pas une vraie formation pour être responsable d'une association. Mais on voit chez nous les femmes qui arrivent, c'est toutes des femmes qui sont blessées. C'est des femmes qui ne sont pas des femmes épanouies. Et c'est des femmes qui demandent beaucoup au milieu associatif. Et malheureusement, nous, on a la chance de t'avoir avec nous, donc c'est vraiment une vraie chance et on travaillera plus sur ça. Mais ce qui nous demande à nous, en tant que responsables, on peut faire beaucoup pour ces personnes, mais on peut aussi faire beaucoup de mal. Parfois, on voit des personnes qui sont... C'est clair que les sont problèmes. Là, on essaye d'intervenir avec les petites choses, comme tu dis, boire un café sans la juger, sortir danser, sortir ensemble. Nous, on a la chance d'être des lesbiennes heureuses, enfin, entre guillemets aussi, pour que les micro-traumatismes soient là tout le temps. Et servir d'exemple, entre guillemets, aussi à certaines personnes pour leur donner le courage de faire des choses positives, parce que personne ne peut nous soigner aussi, entre guillemets. Et si tu peux aller 3000 siècles en médecin, si tu ne veux pas te prendre en main, si tu ne veux pas travailler pour toi, c'est compliqué. Donc je voudrais juste, parce que je pense qu'on est tous dans les milieux associatifs, parfois avec des responsabilités et qu'on assume, mais que parfois on n'a pas la formation pour faire. Et moi, il y a des moments que... Pas de désespoir, aussi entre guillemets. Hein, désolé, mon français ne peut pas être très fin, donc je parle entre guillemets. J'espère que vous comprendrez ce que j'ai dit. Mais je trouve quand même que ces personnes qui viennent avec nous, même celles-là qui semblent heureuses de vivre, etc., derrière, il y a un déni. Ils ne veulent pas accepter qu'ils sont pas bien. Alors, comment on peut aider? On a une responsabilité en tant que responsable associatif, je répète, pour faire que cette femme aille mieux, mais parfois on n'a pas les moyens, parfois on n'a pas les connaissances, parfois on ne se rend même pas compte quel problème de ces personnes parce qu'ils les cachent très bien. Donc je voulais juste attirer l'attention sur ça, c'est de dire qu'on a toute une responsabilité sur ça, mais que c'est très compliqué justement parce que la personne ne vient pas te dire « je vais un verre d'eau ». Là c'est clair, tu sais qu'est-ce qu'il veut cette personne. Mais tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre. Je ne dis pas donner un titre au responsable associatif, mais presque essayer d'avoir une formation sur tout ça pour pouvoir aider mieux ces femmes qui parfois elles-mêmes ne se rendent même pas compte qu'elles ont des problèmes. Merci.
Oui, ces associations sont très très importantes et c'est souvent le seul endroit où peuvent aller les lesbiennes parce que bon, il n'y a pas pas d'autres choses qu'on offre aux lesbiennes, enfin spécialisées. Hein. Souvent, le travail que vous faites, c'est multiple. Hein. Vous êtes psychologue, vous engagez, vous faites des choses pour le loisir, pour ces femmes. Vous vous engagez pour elles dans le système social, etc. Le danger est chez vous. D'un côté, c'est très très important et incroyable ce que vous mettez en place, mais le danger, c'est votre santé. Ouais. Souvent, c'est, je veux dire, et souvent, pas souvent, mais la plupart du temps, c'est un travail bénévole. Et quand après il y a des conflits comme ça qui se déchaînent à l'intérieur de ce système, ça fait mal. Et où est-ce qu'on a encore, où est-ce qu'on trouve encore l'énergie de continuer un travail qui est très important, et la société vous laisse seule, ça il faut que vous le sachiez, mais vous devez aussi savoir que vous ne pouvez pas faire seul, vous avez aussi des limites, et il faut aussi que vous regardiez votre propre santé et prenez soin de vous. Et il faut aussi savoir vos limites. Vous ne pouvez pas tout faire, même si ça fait mal. Ouais. Le mieux, ce serait si des associations comme ça soient subventionnées. Et pour que ça ne soit pas seulement du bénévolat, mais pour qu'on puisse payer des gens qui fassent donc, ce travail.
Tu as dit que tu ne croyais pas à la relation thérapeutique et que les thérapeutes ne servaient à rien.
Oui, j'ai dit ça d'une façon un peu aiguë, mais... Oui.
Je vais intervenir à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est un questionnement quand même qu'on a tout le temps. Bon, d'avoir tenu une librairie qui, comme tu dis, donc lesbienne qui, pendant 20 ans, ce qui est énorme, surtout dans un contexte, allez, dans les années 80, de très grands backlash avec énormément de dépression, de suicide et de morts. Donc, ce n'est pas suicidabilité, c'était des morts réelles. Et puis, bon, on est dans tous les fronts. On se pose énormément de questions. À l'époque aussi, les psychologues lesbiennes, donc qui essaient elles-mêmes de lutter, je parle des, enfin, des années 70, années 80, c'était le questionnement, mais est-ce qu'on sert à quelque chose ou pas? C'est que donc qui est en fait ce que tu disais, de dire, mais en réalité, mais la force est en vous. En fait, le truc, c'est ça, c'est de savoir effectivement que cette force, elle est en nous. Et une fois qu'on a acquis ça, ben, on peut s'en sortir dans plein de situations. Mais on peut s'aider dans des... Enfin, c'est ma façon de résumer un peu en d'autres mots. Donc les psychologues disaient aussi, mais finalement, si il y avait toutes les structures personnelles, collectives qui existaient, ben on ne servirait à rien. En fait, on ne sert à rien en tant que psychologue. Hein.
S'il y avait quoi, toutes les structures
Sociales qui existeraient, donc interpersonnelles, une société qui aide à gérer ça dès l'école, dès l'enfance, etc., avec... Des institutions ou des aides appropriées au bon moment, c'est-à-dire suffisamment d'adultes, par exemple, pour un enfant à qui se référer, suffisamment de groupes identitaires auxquels aller, avec qui parler, suffisamment d'amis ou de sphères proches, hein, émotionnelles et autres, donc avec qui parler, c'est vraiment ces trucs du quotidien, trouver des jobs, ce qui aide aussi parce qu'il n'y a pas tous ces problèmes financiers et tout. Je veux dire, s'il y avait toutes ces structures socio-psychologiques qui existaient, c'est vrai que théoriquement, hein, on peut s'en sortir. Bon, on est dans une société, c'est pas du tout comme ça. Donc il y a quotidiennement des situations de crise, des plus grandes et des moins grandes. Ça c'est aussi, bon, ça c'est simplement la vie sociale. Et donc le questionnement, c'est de dire, bon, comment nous aider pour que dans le quotidien nous nous en sortions, et de savoir qu'ultimement c'est ces outils qu'il faut acquérir ou qui serait bien d'acquérir. Maintenant, on est dans une situation d'oppression, hein, avec des hauts, beaucoup de bas, mais des hauts quand même. Dans les situations dites de crise, peu importe comment on appelle ça, c'est-à-dire une situation où il y a une concentration de conflits, c'est-à-dire pour diverses raisons personnelles, on perd un job, donc on perd sa survie. Très souvent, c'est ça que ça veut dire pour les femmes et les lesbiennes. Donc, avec ce fait réel, enfin, qui est vraiment, je vais trouver à manger ou pas, un logement ou pas, qui sont vraiment des très graves situations. Il y a les traumatismes, les violences, viols, autres, vécus dans l'enfance ou en tant qu'adulte, qui sont des trucs très, très difficiles à gérer, qui sont des situations... très très grave, donc c'est vrai que là personnellement c'est quand même pas évident, donc c'est intéressant d'aller dans des structures ou voir des personnes qui ont quand même beaucoup plus d'expérience à ce niveau-là et des personnes qui gèrent des situations comme ça associatives où moi je vais gérer des trucs J'aurais déjà essayé de trouver, de faire vivre une association lesbienne à une époque où personne n'y croyait, c'est-à-dire une association qui était ouverte dans le quotidien. Et la nuit, j'étais appelée à 3h du mat pour un suicide qui allait peut-être avoir. Donc j'étais complètement crevée, mais je le faisais. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on craque, c'est pas possible, on est des êtres humains. Et plus il y a le fait aussi qu'il y a un tas d'autres violences, moi j'appelle ça violence, qui est la non-solidarité dont tu parlais. C'est vrai que c'est pour une de ces raisons principales que j'ai dû arrêter, tuer un lieu qui existait. Ça, c'est aussi une forme de traumatisme et qui est une réalité, qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais quand tout le monde a abandonné, parce que c'était de nouveau une situation de backlash la fin des années 90, donc avec beaucoup de nos tissus sociopolitiques qui se démantelaient, c'est des choses, ben, si on n'a pas les moyens, s'il n'y a plus les ressources humaines et tout, à gérer, qui sont de nouveau des situations de crise. Et là, de nouveau, des aides ponctuelles peuvent aider. Moi, à l'époque, comme il n'y avait plus de groupe qui existait, qu'est-ce que j'ai fait ? Une ou deux fois dans ma vie, j'ai fait un travail, j'appelle ça un travail, donc avec des psychologues qui avaient elles-mêmes, et c'était la chance que je pouvais les connaître, même fait un travail comme toi, en tant que féministe ou lesbienne, qui avait elles-mêmes, en tant que praticienne, avait dû faire un travail sur elles. Donc, ça va être très bien que ce n'était pas simplement en tant qu'être, mais aussi en tant qu'être actif, qu'il y a vraiment des problèmes spécifiques et qu'il y a des traumatismes reconnus ou pas. Donc, je veux dire, qu'ils sont avec des violences à gérer, il faut s'aider. Mais fondamentalement, ce que dit Ingeborg, c'est que c'est vrai, si soi-même on est dans des contextes qui permettent et qui nous donnent des moyens, que ce soit des infos, des personnes, des structures, mais aussi des lieux de convivialité, des lieux de financement de notre vie, hein, ça s'appelle job, enfin, ou autre, tout ça, ça aide. Mais très souvent, je veux dire, la société, c'est comme ça que ça marche. Donc, comme ça, ça va, on trouve ça, puis c'est en train de disparaître, puis on est là. Je veux dire, dans une vie, on va avoir des dizaines de milliers de grosses crises et de moins grandes crises. Mmh.
Bon, pas pour que vous me compreniez mal, je dis pas que les psychologues ne servent à rien. Oui. Mais il faut, leur travail consiste aussi de donner quelque chose en main pour les gens, pour que eux-mêmes fassent le travail, ce travail de, oui, de se chercher de l'aide dans leur vie réelle. Parce que sinon, on développe des dépendances vis-à-vis du système médical qui n'est pas bien. Il y a un chercheur en Allemagne, enfin le chercheur en Allemagne qui a déjà beaucoup écrit sur les dépressions, pas maintenant juste homosexuels, mais les dépressions. Il a dit il y a quelque temps, nous devons les gens qui avaient déjà une dépression et qui sortent des hôpitaux ou des cliniques de façon sainte, ouais, nous devons les reprendre après 2 ou 3 ans dans un état sain à l'hôpital. On était tous choqués, on a dit, ben non, comment les gens sains les reprendre dans un hôpital pour les traiter alors qu'ils sont bien, ils n'ont pas de dépression. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il a dit oui. Parce que les statistiques ont montré qu'après un certain temps, ils oublient ce qu'ils doivent faire pour maintenir leur santé. Alors, il vaut mieux les prendre sains et pour leur dire de nouveau, écoutez, vous devez faire ça. C'est bien de faire aussi du sport, d'être dans un système social qui vous fait du bien, etc. Et c'est mieux parce que, je veux dire, c'est les gens qui doivent travailler pour eux-mêmes, hein, et pas les gens qui travaillent dans un système médical.
J'ai l'impression qu'on parle de plusieurs choses différentes aussi. Dans le cadre d'un travail de psychologue qui travaille en clinique, en hôpital, on travaille avec des gens qui sont en crise, qui ont aussi des maladies mentales ou des déséquilibres psychiques, etc. c'est un niveau de travail et c'est aussi une approche qui est particulière sur un temps qui est court pour une problématique éventuellement précise, pour un trauma précis dans un temps limité. Mais lorsque la personne est saine, entre guillemets, il peut y avoir aussi un parcours thérapeutique avec un psychothérapeute ou un psychologue ou quelqu'un qui peut aussi les accompagner dans une plus longue durée et non pas dans un moment uniquement de crise pour essayer de leur donner des clés en main pour s'en sortir de cette crise-là. Pour moi aussi, il y a une relation psychothérapeutique qui peut exister avec un thérapeute qui soutient la personne, ne fait pas le travail à la place du client, du patient, mais qui l'aide à se trouver. La personne elle-même, qui elle est au fond d'elle, et ça passe par toutes sortes d'étapes, de problématiques, etc. Mais c'est sur la durée, c'est pas juste de donner à la personne et de faire voir à la personne qu'elle a des ressources. Ça fait partie de ce cheminement-là. Et c'est là où je rejoins ce que disait Chantal, c'est aussi une autre relation thérapeutique.
Mais ils ne sont pas en contradiction.
Voilà, exactement. Mais je pense que c'est important aussi d'évoquer les deux, éventuellement, et qu'ils ne sont pas antinomiques et contradictoires. Et aussi, pour parler des micro-traumas, je pense qu'effectivement, on parle des violences que les unes et les autres prennent plus ou moins à cœur, ou plus ou moins fortement, ou de manière plus ou moins violente selon qui on est et comment on a été construite, etc. Donc pour certaines, on le vit comme micro-traumatisme. Pour d'autres, on le vit comme des cons dans la rue. Et on ne va pas le nommer comme micro-trauma. Et d'autres vont être heurtés peut-être par ce nomenclature qui évoque d'autres traumas qui pour elles sont beaucoup plus graves, des violences sexuelles, des violences physiques, etc. Mais ça reste néanmoins des comportements d'autrui, des situations dans la vie quotidienne qui nous heurtent. Et c'est des flèches quelque part qu'on prend au quotidien qui nous minent aussi. Et c'est dans ce mesure-là où je pense que c'est des micro-traumatismes. C'est comme des petites flèches, oui. Et l'autre point que je voulais aussi soulever, c'est ce que vous disiez par rapport à dire, en tant que thérapeute, dire ou pas à sa patiente qu'on est lesbienne soi-même. Et ça m'a un petit peu interpellée dans le sens où quand on est face à un patient, il y a aussi une certaine déontologie. La personne n'a pas à savoir qu'on soit hétéro, homo, marié, paxé, enfant, pas enfant, qu'on danse dans la vie privée, qu'on fait, peu importe. Et un thérapeute hétéro ne dirait tout en temps pas à son patient « je suis mariée, j'ai 3 enfants ». Tout autant qu'une thérapeute lesbienne, je ne vois pas en quoi elle aurait à dire à sa cliente qu'elle est aussi lesbienne. Sauf qu'il y a certaines choses qu'on peut faire passer à sa cliente pour qu'elle comprenne qu'elle est soutenue dans l'être, qu'elle est comprise, qu'on la voit en tant que telle. Mais ça, une autre personne peut aussi le faire. Je pense qu'il y a aussi une distinction à faire là-dedans.
Moi, je voulais dire, du coup, je trouvais ça intéressant, justement, la différence que tu faisais entre le fait de pouvoir, moi je le verrais plus comme pouvoir être victime en fait dans un système social comme hétéropatriarcal qui peut entraîner des trucs de souffrance, mais ça veut pas dire que pour autant on est complètement victime, et d'accentuer aussi sur les trucs de force, de ressources, etc. Ce qui n'empêche pas de pouvoir reconnaître justement ces histoires de micro-traumatisme, etc. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est cette histoire de parler par exemple de personnes saines ou malades mentales. Et que, je sais pas, j'aurais envie aussi d'aller plus loin dans une critique de la normalisation psychiatrique, où je pense quand même que les classifications psychiatriques sont profondément normalisantes en général. On le voit par exemple pour les personnes LGBT, que c'est quand même récent d'avoir été enlevé des diagnostics. Pour les personnes trans, c'est vraiment pas réglé non plus, parce que ça a changé dans comment c'est formulé, mais il reste quand même un peu l'idée de dysphorie de genre qui moi aussi me pose problème. Et qu'en fait, j'aurais envie d'aller plus loin dans cette histoire de normalisation, et que je trouve en fait, enfin pour moi, il y a une existence par exemple de la souffrance psychique, mais je trouve ça compliqué de décider qui est malade mental, qui est saine mental, et que c'est des trucs qu'on rapporte avec aussi une adaptation à une société. Enfin, qui pour moi est une société qui est hétéropatriarcale, qui est raciste, qui est capitaliste, et est-ce qu'on a envie de s'adapter à cette société-là? Et par exemple, pour moi, des trucs de normalisation, ça va être par exemple de considérer que d'avoir un travail et d'être en couple, c'est par exemple quelque chose qui est considéré comme sain, hein, en général, par les psys, par exemple, alors que ça peut être très clairement une cause, enfin pour moi, le travail peut être une cause de souffrance, le couple peut être une source d'enfermement, de violence, etc., et que j'aurais envie d'aller plus loin dans ce truc de remise en cause de qu'est-ce qui est considéré comme normal, comme sain. Et j'avais un peu envie d'avoir ton point de vue par rapport à ça, en fait.
Il faut toujours voir ça individuellement, ce que ça veut dire la santé pour la personne. Hein. Je veux dire, c'est clair que, par exemple, faire du sport, c'est bien pour la santé. Ouais, pour la santé physique, ça a une influence aussi sur... Mais, par exemple, là où j'ai fait ma formation de comportementaliste, la directrice de cette école, elle a dit qu'elle déteste le sport. Bon, alors, c'est comme ça. Hein. Je veux dire, c'est toujours des choses individuelles.
Bonjour. D'abord, je voulais te remercier pour cet exposé qui m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé beaucoup de choses que je n'entends pas beaucoup ailleurs et qui me parlent beaucoup, dans lesquelles je me reconnais bien. Donc, ça me fait du bien de t'entendre et de voir que tu travailles là-dessus.
Merci.
Il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée à un instant, entre autres. Hein, c'était que tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de solidarité entre les femmes, dans le milieu des femmes. Je ne fréquente pas tous les milieux des femmes, mais enfin, bon, je connais un petit peu quand même. Et moi aussi, je ressens beaucoup ça. Et en allant un petit peu plus loin, je ne sais pas, je suis malheureusement arrivée un petit peu en retard, je m'excuse, peut-être qu'au début, il y avait quelque chose par rapport à ça. Je trouvais que parmi les violences qui nous sont faites, tu parlais beaucoup des violences qui sont faites de l'extérieur sur nous. Et moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de violences qui sont faites dans le milieu lesbien, par des lesbiennes sur des lesbiennes. Et même à un niveau tout petit, quotidien, puisqu'on parlait des traumatismes mini, quotidiens, etc. Il y a parmi mon entourage des amis, donc pas des femmes qui sont extérieurs à moi, etc. Il y a parfois des comportements comme par exemple le coming out, où on discute de coming out et moi je peux dire que mon coming out, comme tu disais tout à l'heure, je ne le fais pas partout. Et là, il y a une intolérance par certaines, en tout cas dans ce cas-là par rapport à mon entourage, qui me disent qu'ils sont assez violentes et il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de discussion. Et pourquoi il y a ça, je pense aussi, c'est parce qu'on n'en parle pas en tout cas dans les groupes que je fréquente, dans les milieux que je fréquente. Je suis à Toulouse, donc c'est quand même une grande ville. Avant, j'étais à Paris aussi. Et je trouve que ça manque un peu de pouvoir entendre une autre parole, parce qu'on ne discute pas de tout ça entre nous, trop peu. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, que les violences, je les sens aussi beaucoup, même dans mon milieu proche, avec des femmes que j'aime beaucoup, que je connais depuis longtemps, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de discussion entre nous dans des groupes où on pourrait en parler.
Oui, vous avez tout à fait raison de dire ça. Hein. C'est pas parce qu'on est lesbienne qu'on est spécialiste dans ces choses-là. Et j'ai souvent entendu ça aussi, qu'il y a des lesbiennes qui disent « Oui, il faut se outer, il faut faire un coming out partout. » Non. C'est un choix. Bien sûr, ça a quelque chose de militant, mais c'est un choix d'être militante ou pas. Et je peux être militante à un moment donné, mais pas partout. Je veux dire.
Je parlais pas là de militantisme, je parlais de
situation.
Oui,
mais il y a des gens qui utilisent le coming out pour justement changer les choses dans la société. Oui, mais je trouve ça super, les gens qui font ça, mais Moi, je ne veux pas le faire partout. C'est mon choix.
D'accord. C'est-à-dire, ce n'est pas imposé. Ouais. Mais quand on dit « je ne veux pas forcément le faire comme ça », il y a quand même dans les têtes des comportements qui sont comme des codes, comme il y a des codes un peu dans le monde hétéro, dont on ne parle pas. C'est ça qui est plus grave, parce que nous, on dénonce les codes obligatoires dans le monde hétéro. Mais entre nous, il y a des codes qui sont aussi obligatoires, mais qui sont tacites. Et c'est très difficile de les dénoncer. Ils sont niés, ils sont déniés. Il y a un déni là-dessus. Mmh. Et quand on en parle, on est ostracisé souvent, quelquefois. Ouais. Voilà.
Non, mais ça serait intéressant un jour qu'on rediscute des rapports entre nous. Et je voulais juste revenir sur un point par rapport à la question psychiatrique. Là, dans ta liste, tu n'as pas parlé de la parano. Et comme la discrimination, comme l'homophobie peut être intériorisée, et qu'on peut aussi s'auto-discriminer et s'auto-exclure et donc on peut aussi avoir une vision paranoïaque aussi de son environnement et d'estimer que tout est une agression. Donc c'est là où moi je trouve très dangereux aujourd'hui cette idée de micro-traumatisme, parce qu'on le voit aussi dans le féminisme aujourd'hui, où maintenant les psys aussi, on est toutes complètement traumatisées, hein, de toute façon, par toutes les violences qu'on subit. Donc je me demande comment on survit encore aujourd'hui. Il y en a même qui s'appellent maintenant des survivantes. Donc il faut faire quand même... Il y a quelque chose d'extrême dans cette psychologisation. De toute façon, on a des phobies partout. Maintenant, tout est objet de phobie. Et on ne parle plus du politique. On ne parle plus de l'action collective, justement, et de la réflexion collective qu'il pourrait y avoir sur des processus sur lequel on pourrait agir. Parce que quand on parle de traumatisme, ben à ce moment-là, ben c'est comme... après, on parle de post-traumatisme. Et puis, maintenant, dans le milieu féministe, on parle d'état de sidération. Donc, c'est comme si on était... la psyché était quelque chose qui nous échappait complètement, quoi. Et moi, je suis très mal à l'aise.
Je veux bien juste réagir par rapport au terme survivante, parce que je pense que le but à la base de remplacement de ce terme plutôt que victime, c'est pas un but de pathologisation, mais c'est vraiment un but de justement, on n'est pas juste traumatisé et victime, en fait, on peut avoir vécu par exemple des situations d'agression, et le fait d'appuyer sur le terme de survivre, ça met plus en valeur justement le fait de force, d'aller au-delà, et que t'es pas juste une victime et tu vas passer le reste de tes jours à pleurer là, mais que justement t'as de la force en toi et tu vas au-delà. Et que je pense que le terme, comment il a été repris, entre autres par des féministes, par exemple dans les cas de viol, plutôt que de dire victime de viol mais survivante, c'est plutôt dans un truc positif, et qui pour moi justement sort d'un truc de pathologisation. Du coup, je trouve que c'est un peu, c'est pas son but justement d'aller vers plus de psychologisation des choses, tout ça, c'est plus d'appuyer sur les forces et un truc de reprise du pouvoir.
C'est un terme qui est repris actuellement, même quelle que soit l'histoire qu'on a vécue, hein, si maintenant c'est devenu une sorte de rhétorique. Et pour moi, c'est aussi un terme qui a été utilisé par les femmes qui sont revenues des camps d'extermination. Donc, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, la violence qu'on peut subir au quotidien, bon, je parle en dehors des viols ou des agressions extrêmement violentes, ou ces micro-traumatismes aujourd'hui que l'on pourrait subir liés de cette femme et lesbienne, est-ce que ça peut être comparable à ce qu'ont vécu les femmes en Bosnie ou au Rwanda, ou il y a un moment donné, il faut quand même, j'ai très peur de la dramatisation comme objet aussi d'immobilisme et de et maintenant derrière il y a le terme de sidération maintenant qui est un peu répandu partout, donc à la limite on ne peut plus, on est complètement tétanisé, quoi. Donc il faut faire vraiment très attention. Et moi là, voilà, c'est
Pour répondre juste à ce que tu dis, je pense que les termes aussi peuvent changer, on peut s'en emparer, on n'est pas obligé de les laisser dans un contexte particulier. Les mots sont ce qu'on en fait. Oui, mais on peut les reprendre, on peut s'en emparer et on peut les utiliser dans un autre contexte, pour une autre situation, ils ne sont pas figés.
Pour les micro-traumatismes, j'aimerais garder ce mot. Ouais. Parce que... Oui, je peux donner un exemple. J'étais une fois à l'association de la Lune, à une fête de crêpes, et il y avait pas mal de jeunes. C'était juste le moment où il y avait ces manifestations anti-homo et pour homo. Et j'ai un peu discuté avec des jeunes lesbiennes qui sont venues ce soir-là. Il y en a une qui m'a dit, c'est marrant, donc elle n'a pas fait son coming out à la maison. Enfin, c'est pas marrant, c'est difficile parce que à chaque fois que son père voit les manifestations pour le mariage homo, il parle mal de ces gens. Il parle en termes de ils sont pas normaux, et elle est à côté, elle écoute ça. Pour moi, c'est un micro-traumatisme. Alors, tu n'as pas vraiment compris ce que j'ai proposé avec mon exposition. Ouais.
Ouais.
Ok.
Moi, je voulais juste les mini-traumatismes. C'est la répétition aussi qui fait qu'à un moment donné, on te dit un truc, tu encaisses et malgré toi, tu dis « Oh, moi, je suis au-dessus de ça ». Mais dans une même journée, ou parce que tu es crevé, ou dans une semaine, ou dans une période, quand ça te vient tout d'un coup, la 101e fois, ben c'est la 101e fois de trop, c'est comme une blessure, tu mâles, tu frottes, tu as une ampoule, tu continues, et puis tu as une plaie ouverte et tu arrives à l'os. Et pour moi, c'est ça les mini traumatismes séparés. Ah ben, je donnais l'exemple que je vivais, moi, au quotidien. Je devais essayer de faire vivre un lieu auquel... à une époque où personne n'y croyait. C'est pas compliqué, c'était complètement utopiste. Donc, tous les traumatismes, je vivais la même journée. C'était une qui venait pour des problèmes de survie. Donc, elle était à la rue. Donc, moi, j'ai géré beaucoup d'ados qui étaient à la rue, soit de leur famille, soit d'orphelinat. C'est-à-dire, et les orphelinats, c'est bien pire, parce que c'est vraiment aucune ressource. Donc, en âge, scolarité obligatoire, se retrouvaient à la rue par des institutions étatiques ou par leurs propres parents. Et elles étaient là à Artemis, voilà. Moi, j'avais en plus cette loi de détournement de mineurs et j'avais une institution, enfin une association à protéger, un lieu que je ne voulais pas voir être fermé, ni parce qu'on m'aurait moi emprisonné pour une raison fallacieuse. Voilà, il y avait ça. Et en même temps, ce même jour-là, des amis qui me disent « Ah voilà, ben oui, j'ai commandé le livre à la FNAC ». Alors moi j'avais l'exemplaire des amis hein, pour te dire voilà hop autre la même journée ensuite bon j'encaisse ça évidemment plus ou moins bien disons plus ou moins mal puisque j'ai mes loyers à payer c'était de bon je vais héberger cette fille c'est-à-dire qui est devenue une amie mais enfin à l'époque ça voulait dire ah ben oui donc elle va manger avec moi donc j'avais déjà moins que le SMIC donc ça veut dire ok je vais quand même essayer de trouver ok moi, ça ira j'ai ce qu'il faut dans le frigo puis je me débrouillerai demain donc c'était chaque fois aujourd'hui ça va et je verrai demain et la nuit donc j'étais crevée de la journée donc il y avait sans compter le mois ou l'année qui avait passé et puis le coup de fil la nuit une autre personne dit voilà j'en peux plus je vais me suicider donc il faut d'abord voir qui c'est d'où elle vient est-ce que voilà et quand tu as des trucs, là je donne vraiment un exemple, on se dit, bon, c'était de temps en temps, c'est pas vrai. Comme c'était le seul lieu ouvert, qu'à cette époque les psychologues s'en occupaient pas, qu'on nous les reléguait dans le meilleur des cas, c'est-à-dire moi j'estimais que dans le meilleur des cas, quand on me l'avait relégué, au moins c'était une lesbienne qui allait découvrir qu'elle avait, non seulement était normale dans le sens, elle était bien d'être qui elle était, point, à la ligne, mais il fallait aussi trouver des moyens financiers, etc. Et on est toujours dans cette situation, hein, que ce soit des réfugiés ou d'autres. Il ne faut pas être réfugié pour être dans la pauvreté. Elle existe dans chaque pays européen. Et les premières concernées, là, il y a aussi un tas d'études, c'est les personnes dans des situations de groupes sociaux discriminés. Et puis tu es là. Et moi, un autre traumatisme aussi, c'est d'être impuissant, de ne pas pouvoir répondre. C'est-à-dire, quand j'ai arrêté Artemis après 3 ans, pour ma propre survie, c'était vraiment ça, j'étais à un point où tout me dégoûtait. C'était un point, ça me dégoûtait d'en voir qu'il y avait plein de moyens, ces mêmes qui allaient commander, hein, en prétendant, ben, les librairies lesbiennes, c'est plus nécessaire, de toute façon, on peut tout trouver à la FNAC, etc. Enfin, je prends toujours le même exemple, parce qu'à l'époque, c'était vraiment comme IKEA, il y avait IKEA, il y avait la FNAC, toutes ces nouvelles, ces multinationales, et ça, c'est, ben, voilà, le domaine économique, après 10, 20 ans, se sont dit « Ah, oh, ben, ces bouquins, finalement, c'est intéressant. » Nous ont cassés parce que nous, les best-sellers qui étaient les seuls trucs qui pouvaient nous faire vivre, ben, on n'avait même plus ça. Puis, de toute façon, la révolution était faite, non ? Hein ? On peut le trouver partout. Avec ces... Tu vois, c'est ça quand je dis les clous. Tu sais, à la centième...
Oui. Je voulais juste te donner deux exemples. Je te donne des exemples des micro-traumatismes. Hier,
on était là en train de faire les banderoles, on était à 5, 6 femmes. Et on était là derrière en train de faire les banderoles, on était 5, 6 femmes. Et il y a trois petits, entre guillemets aussi, merdeurs, quoi, 1m10, qui sont arrivés. C'est qui est lesbienne ici? Bon, je me suis fait exprès en me disant, les femmes vont répondre. Personne n'a répondu. C'est moi qui l'ai dit, et toi, tu es quoi? Et avec quel droit tu me demandes qu'est-ce que je suis? Et là, le petit gamin, il a dit, ah, je suis policier. Mais les femmes n'ont pas répondu. Et le jour qu'on venait de la... Quand on a fait l'île, là, on venait le soir, on s'est donné la main avec Irène, et il y avait trois mecs derrière. À un moment, je me suis arrêtée, et je les ai laissés passer devant moi. Parce que je me suis dit, je ne veux pas trois mecs qui sont en train de se moquer de nous. Soit tu cherches la police, tu fais les scandales. Je me suis arrêtée. J'étais obligée de m'arrêter parce que ces mecs que j'ai considérés une menace, peut-être pas, c'était des cons, comme on dit, c'est des petits cons. Mais dans ces moments-là, je me suis arrêtée. Oui, c'est pas un traumatisme, c'est moi qui dois s'arrêter parce que j'ai eu peur. Mais oui, mais c'est un traumatisme. Je suis désolée. Mais oui, mais pour que je suis lesbienne, si j'avais été à l'aise avec. Non. Si j'ai... Oui, voilà, tout à fait. Avec un mec à travers barbe, c'est con, là, je ne m'aurais pas insulté. Enfin, insulté, rigolé. Donc là, c'est moi qui ai dit se mettre en arrière parce que j'ai préféré les savoir avant que les savoir derrière nous.
Mais tu sais, pour quelqu'un, c'est un micro-traumatisme. Pour une autre personne, le même événement, ce ne l'est pas. Alors,
oui. Du coup, moi, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une crispation sur le terme de traumatisme. Mais en fait, enfin moi, dans ce que j'ai compris et dans ce que j'ai lu aussi par rapport à ça, une situation de micro-traumatisme, ça ne veut pas dire qu'on va être traumatisé forcément.
Non.
C'est une situation de violence qui peut être émotionnelle, qui peut être psychique,